gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien. Bon.
Bonsoir à toi qui écoute toujours Radio Canu au 102.2 sur la bande FM et sur radiocanu.org. Il est 22h et deux petites brouettes et c'est l'heure de la causerie. Alors avant de présenter les personnes dans le studio, on présente nos plus plates excuses de ne pas avoir été là la semaine dernière.
Non, je dis flagelle-toi.
Oui, c'est ça. Aïe, aïe. Non, enfin bref, c'était juste pour dire que voilà, on revient quoi. Dans les studios, toujours à la technique, Clara.
Hello.
Hello. Et nous avons Fab aussi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Guten Abend.
Guten Abend. Good evening.
Hello, Guten Abend.
Ja, gut. Sehr gut. Also.
Et Jean-Yves.
Bonsoir. Alors, eh bien, avant de causer comme à notre habitude, on va aussi, comme à notre habitude, vous rappeler comment nous joindre, tout ça, tout ça. Je précise sur le blog, les commentaires ne sont toujours pas actifs, donc si vous aviez des petits retours à nous faire, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail à lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com.
Voilà. Et aussi, si tu veux nous écrire. Hein.
Mais bien sûr.
Pour autre chose que de nous commenter.
Mais oui, si tu veux nous faire des bisous, passer le bonjour, enfin tout ça, n'hésite surtout pas. Quoi ?
Non, je croyais que j'étais faible en micro, mais non, on me dit.
Non, t'es pas faible.
Non, du tout.
Okay,
on t'entend bien, peut-être même de trop.
Mais...
Bande de saloperies. Alors, donc, pour nous joindre, c'est lacausericanu@gmail.com.
Tout à fait, évidemment. Et le blog, c'est donc à blogs, avec un S à la fin, n'est-ce pas ? blogs.radiocanu.org/lacausserie, où vous tapez dans votre moteur de recherche, quel qu'il soit, la causerie Canu, et vous devriez tomber sur nous. Nous ne sommes ni un restaurant, ni un club religieux, ni un bar dans le 7e arrondissement. Il n'y a qu'une causerie Canu, c'est nous.
Et oui.
Voilà.
Et sinon, on est sur tous les trucs de podcast aussi. Tu tapes la causerie Canu, normalement, tu nous trouves.
Évidemment. Et ouais. Même encore sur celles qui n'existent pas encore. On y est déjà.
Ouais, on est déjà. Un coup d'avance.
Un coup d'avance pour dominer le monde. Alors, on va commencer à causer.
C'est n'importe quoi.
Bien sûr que c'est n'importe quoi. Manquerait plus qu'on se prenne au sérieux. C'est Fab, pardon, qui commence. Et toi, on va souffler la bougie des 1 an d'un coup d'État.
Oui, tout à fait. Alors, on dit rarement joyeux anniversaire à la dictature, mais plutôt on va commémorer, malheureusement, la reprise en main en Birmanie du pouvoir par l'armée. Alors, je crois qu'on ne dit même pas commémorer, on va regretter. Enfin, je sais pas quel mot employer.
On va établir le fait que ça fait 1 an.
Il y a un petit peu plus d'1 an, parce que c'était le 1er février. Hein, donc, on est le 13, je crois. Donc, du coup, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'1 an, l'armée reprenait le pouvoir qu'elle n'avait jamais vraiment laissé en Birmanie, Myanmar, hein, depuis 62, hein, tout simplement. Et l'instauration, je vous rappelle, en 62, d'un régime marxiste par l'armée. Hein. C'était donc un régime marxiste copié grandement sur le stalinisme de l'époque qui avait le vent en poupe. Donc en fait, l'armée dirige le pays d'une main de fer, hein, très clairement, depuis 62. Ça s'était un peu assoupli ces 10 dernières années. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait eu des manifestations, il y avait aussi eu plusieurs répressions entre 62 et il y a 10 ans, assez violentes. Il y a des gens qui ont été enfermés pendant des années chez eux. On se rappelle aussi qu'il y a eu une pression internationale assez forte aussi sur la Birmanie, qui a été faite pour essayer d'amener une transition démocratique. Et donc on semblait s'orienter petit à petit vers une transition démocratique. Mais comme les intérêts de l'armée, hein, qui détient, comme en Chine, on va le rappeler, quasiment l'ensemble de ce qui fait le PIB du Myanmar, hein, donc de la Birmanie.
Et comme dans plein de pays, en fait. Je crois qu'en Égypte, c'est pareil. Ouais. Alors en Grèce, c'est pas l'armée, mais par contre, c'est le clergé. Ouais. Enfin,
Il dit qu'il y a des gens qui savent se placer.
C'est ça.
Donc, comme ça commençait à être touché, l'armée a décidé de reprendre le pouvoir et d'écraser la révolution en marche en Birmanie. Donc là, en fait, on en avait déjà parlé, hein, dans l'émission 389 du 25 avril 2021. Donc je vous renvoie à cette émission parce que je ne vais pas refaire toute l'émission, ça ne servira à rien. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'on essaye de suivre dans la causerie. Donc depuis un an, hein, les choses ont continué, mais surtout en fait, la lutte pour la liberté est loin d'avoir cessé. Et c'est un peu ce qui a surpris un peu tout le monde et je vais expliquer pourquoi. Alors les Birmanes et les Birmans, en fait, ils lâchent pas la rue. Ça déjà, c'est quelque chose d'assez surprenant, mais tout d'abord, hein, et contrairement à ce qu'espérait l'armée, depuis un an, les manifestations sont fréquentes pour demander la fin de la dictature militaire. Alors elles prennent des formes diverses et variées, hein, parce qu'on va être clair, quand il y a une dictature militaire, on fait pas toujours la même chose, sinon on se fait vite prendre quand même. Donc ça va de la manifestation de rue au refus de travailler, de la grève au sabotage. Donc tout est mis en œuvre en fait pour bouter le régime militaire hors du pouvoir. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. L'armée, hein, n'est pas restée sans rien faire, malheureusement. L'ONG Fortify Rights, qui est basée en Asie du Sud-Est, elle met l'accent sur deux points très précis. Il y a eu des milliers d'arrestations arbitraires, parfois présentées comme préventives. Hein, vous voyez, on vient chez vous, on vous enlève parce qu'on dit oui, on vous enlève parce que c'est une arrestation préventive, c'est un enlèvement, hein, ça s'appelle comme ça. Et on dit, on est obligé de vous enlever parce que vous allez faire des bêtises. Oui, bon, voilà. Et selon l'ONG, c'est au moins 11 000 personnes. Alors, elle dit bien au moins, hein, parce que comme très peu d'informations fuitent, c'est des recoupements par des témoignages, par des choses comme ça. 11 000 personnes qui sont retenues dans les camps ou prisons du pays, souvent torturées et malnutries depuis un an. Voilà. Dans le même temps, l'ONG estime que la répression a fait plus de 1400 morts dans le pays. Alors là, c'est pareil, les chiffres sont donnés à titre indicatif, comme le dit l'ONG, et c'est pas la seule. Hein. Il y a eu Manuel Quats aussi qui a sorti des chiffres, il y a plusieurs ONG qui expliquent qu'en fait, les 1400 morts, c'est pareil, c'est des regroupements, c'est-à-dire c'est des familles qui disent, oui, en fait, il a été tué pendant la manifestation. Mais ça se trouve, c'est beaucoup plus, parce que c'est toujours compliqué dans ces situations-là d'avoir un chiffre exact un chiffre terrible de personnes décédées. Donc il faut souligner que les décomptes sont classés secrets, hein, par la junte militaire, et il est donc difficile, c'est-à-dire quand il y a une manif, il y a répression par exemple, mais on vous dit pas combien il y a de morts, c'est secret.
Oui. C'est pour la sûreté de l'État.
Voilà, parce que c'est... Bon, en fait, c'est pour cacher les horreurs, hein, comme toujours. Donc, c'est difficile de suivre le nombre de morts. Mais clairement, hein, il a été documenté que les manifestations ont été réprimées par des tirs à balles réelles. Donc, on se doute bien, quand on tire à balles réelles, généralement, il y a des morts. Ou carrément que l'armée a foncé dans la foule avec des blindés. Bon, généralement, là aussi, ça fait rarement que des blessés. Tristement, hein. Je ne dis pas ça avec ironie ou humour. Donc, l'armée, elle ne s'attendait quand même pas à une telle résistance. D'ailleurs, elle a été dépassée, car elle pensait que le fait d'enfermer de nouveau Aung San Suu Kyi chez elle suffirait à tenir la foule tranquille. Et en fait, ce que l'armée n'avait pas mesuré, c'est que les Birmans et Birmanes qu'elle a en face d'elle, c'est une nouvelle génération. Et Aung San Suu Kyi, qui a bientôt 75 ans, elle représente plus forcément la même chose que la Aung San Suu Kyi des années 80. Et en fait, les Birmans et Birmanes, alors ils la soutiennent, hein, y a pas souci, la majorité demande sa libération, mais ça fait partie d'une série de revendications. C'est pas la première des revendications, c'est plutôt l'idée de dire, non, on doit pas enfermer les gens chez eux pour leurs idées. Par contre, nous, on veut la démocratie. Ouais, c'est un peu... c'est pas lié.
Non, et ce qui en soi est plutôt assez intéressant.
Un gros changement, surtout.
Oui, c'est qu'il y a un dépassement de la personnalité un peu Enfin, elle était quand même un petit peu, comment dire, pas déifiée, mais...
Quasiment.
Enfin, tu vois, et que je me dis, oui, c'est plutôt bon signe que les gens, finalement, dépassent une figure emblématique pour aller sur quelque chose qui les concerne aussi, c'est-à-dire la liberté, etc. Ouais,
c'est,
eux, quoi.
C'est la différence d'attendre de quelqu'un qui apporte quelque chose et aller chercher soi-même. Mmh. Voilà, c'est la petite nuance qu'il y a. Et beaucoup d'analystes disent, bah, en fait, c'est ce que l'armée n'avait pas trop prévu dans ce qui se passe. D'ailleurs, c'était le plan du général Ming Aung Hlaing, pardon, j'ai toujours du mal à dire son nom, qui a pris la tête, en fait, du pays pour le coup d'État le 1er février 2021. Je vous rappelle qu'il a fait ça parce que, oulala, oulala, la démocratie, ça nous amenait droit dans le mur et qu'il fallait rétablir la paix. Pas trop compris, hein, mais voilà.
Ah, la paix, c'est la guerre, ou la guerre, voilà. C'est la paix, enfin, un truc comme ça.
Mais donc, tout se passe pas vraiment comme il l'avait prévu. Alors, il y a quelque chose qui est apparu et qui est assez étonnant, c'est que le silence en Birmanie est devenu une arme. Mmh. Et ça, ça peut paraître comme ça quand on le dit assez bizarre. Mais les manifestations et les grèves, en fait, ne suffisant pas à faire tomber l'armée, une nouvelle méthode a été tentée. Elle a pris une ampleur assez énorme, et là aussi inattendue, mais par ceux qui avaient eu l'idée de cette méthode. Faire une journée de silence total dans le pays. Alors imaginez, pas un bruit, pas une parole, on ne se parle pas, on fait le moins de bruit possible, on ne démarre pas de voiture, on évite de démarrer des motos, on fait en sorte que le pays soit le plus silencieux possible. Voilà. Alors c'est parti d'une militante hein, qui avait mis cette phrase sur Twitter, vous voyez comme quoi des fois les réseaux sociaux ça a aussi un impact auquel on ne s'attend pas. Elle avait écrit « Le silence est le cri le plus fort que nous pouvons lancer contre les soldats et leur sanglante répression ». Voilà. Ça, c'est pas faux, hein, quelque part. Et en fait, l'idée, elle a fait tache d'huile. Les réseaux sociaux, en fait, ont été inondés du fameux hashtag silence day, une journée de silence. Et donc, cette idée, bah, elle a été reprise. Les murs des villes ont été tagués, recouverts d'affiches qui appelaient à faire cela pour commémorer les 1 an de la prise de pouvoir sanguinaire par l'armée. Voilà. Et quand cette journée a eu lieu, eh ben, en fait, tout le monde a été surpris à quel point elle a été forte. Le silence était pesant, palpable, gênant, dérangeant. Parce que oui, le silence, en fait, c'est très dérangeant. On s'en rend pas compte comme ça, mais quand d'un coup... Alors, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont fait des parallèles que je trouvais assez intéressants. Ils disaient, c'est comme les premiers confinements. Vous savez, quand d'un seul coup, dans les rues, il n'y avait plus un seul bruit. Eh ben, on n'était pas bien parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'il n'y ait pas un bruit dans la rue. Vous savez, eh ben, en fait, là, ça a fait cet effet-là. Et donc, moi, je vous invite à aller voir sur le site Info Birmanie, qui a réussi à récupérer des vidéos qui ont été filmées par les Birmans sur place hein, de cette journée, de voir à quel point en fait c'est puissant ce silence. Ça paraît comme ça, mais en fait c'est extrêmement puissant. Voilà. Et deuxième aspect, la guérilla en fait a été relancée en Birmanie, parce qu'il n'y a pas que des manifestations pacifiques, il y a aussi une guérilla qui est en place. Pardon. Dans le même temps, donc la guérilla qui existait déjà avant la reprise en main par l'armée, hein, on va être clair. Elle a été relancée, par contre, elle s'est beaucoup intensifiée. La Birmanie, en fait, c'est un ensemble de régions et d'ethnies qui ont toujours été en tension entre elles. Il n'y a jamais eu vraiment de paix totale en Birmanie, même sous le protectorat avant, enfin, même sous la colonisation, il n'y avait pas de paix totale, ça n'a jamais vraiment existé. Excusez-moi, il faut que je tousse. Pardon. Mais il y a aussi eu la naissance des forces de défense du peuple. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et en fait, c'est des résistants interne à l'oppression militaire. Alors, la notion de force de défense du peuple, ça peut paraître bizarre, mais c'est le nom qu'avait pris déjà contre les colons des Birmans. Voilà. Et surtout, ils ont quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils se disent transethniques. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte de l'ethnie. Ils sont avant...
Et ils ont donc dépassé aussi les armées communautaires, on va dire.
Alors, eux, oui, les armées communautaires existent toujours.
C'est
mais
ce qui est intéressant.
Mais eux, les forces de défense du peuple, ils le disent, c'est toute personne qui veut faire tomber le régime militaire. Voilà.
Ouais, c'est intéressant.
Et depuis un an, en fait, ils mènent des sabotages, des attaques contre les militaires, et ils ont aussi mis en lumière les membres des services secrets et de renseignement. C'est-à-dire qu'en fait, ils les affichent, mais ils les affichent vraiment. Soit sur Internet, soit ils les collent sur les murs. La photo de la personne, ce qu'elle fait, et le fait qu'ils sont du service de renseignement de l'armée. C'est pratique pour éviter de se faire avoir. Donc, dans le même temps, hein, les régions du Sagang et de l'état du Kaya, je vais y arriver, respectivement dans le centre et l'est du pays. Alors, c'est des régions qui sont sécessionnistes depuis des années. Enfin, en fait, c'est un peu particulier parce qu'ils ne cherchent pas à avoir leur indépendance totalement, mais ils cherchent à avoir leur autonomie la plus grande possible. Donc, eux, en fait, ils ont vu repartir les combats contre les forces militaires parce qu'ils avaient une armée communautaire, ethnique, qui existait déjà. Et elle s'est toujours opposée à la junte militaire. Alors généralement, c'était une opposition de forme, c'est-à-dire qu'en fait, on créait des frontières et on disait vous rentrez plus. Là, c'est une opposition militaire, c'est-à-dire que ben quand la junte essaye d'attaquer, ben en fait, ils répondent. Voilà. Par contre, ils l'ont dit, ils essayent d'être. Alors, c'est leur déclaration, donc vous en faites ce que vous en voulez, parce que moi je me dis toujours, dans un conflit ça se fait toujours bien de dire ça, mais ils disent toujours, on essaye d'être en réaction et pas en action, c'est-à-dire qu'on n'est pas ceux qui attaquons, on est ceux qui évitons, on se défend, on n'attaque pas, voilà. Par contre, il y a des milliers de jeunes birmans qui ont rejoint les forces dites ethniques ou communautaires pour résister militairement, et en fait ces forces, elles ont dû du coup s'ouvrir elles aussi. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément de l'ethnie, qui arrivaient et qui disaient « Mais moi, en fait, je veux bien venir vous aider à aller botter les fesses ou à la junte militaire, vous voyez ?» Donc, ça aussi, c'est un peu nouveau, et c'est à prendre en compte. Donc, l'armée, elle a aussi fort à faire dans le sud du pays, où la minorité Karen a repris le contrôle depuis bien, bien longtemps. Elle a quasiment un état autonome dans l'état, c'est-à-dire qu'elle se raccroche toujours au Myanmar et à la Birmanie. Bon, enfin, 99% des décisions sont prises en local, on va dire ça comme ça. Et en fait, il faut se souvenir qu'ils ont fait ça en chassant en fait l'état militaire de leur terre, mais c'était avant il y a 10 ans, c'était il y a longtemps. Donc ils ont chassé la junte militaire, ils ont instauré un état plutôt démocratique d'ailleurs. Et ils offrent un refuge en ce moment à beaucoup de personnes ciblées par la junte militaire. Et ils ont même fait un appel en disant nous vous protégerons. Okay. Donc c'est assez nouveau parce qu'en Birmanie ça se voyait pas, c'est-à-dire que ouvertement en fait une armée, parce que c'est ça, et donc un État disent bah écoutez nous en fait venez chez nous, on vous protégera, c'est assez neuf en fait, et ils ont ouvert les frontières, ils ont mis en place des camps, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Alors ça peut paraître un peu dérisoire, mais ils n'avaient pas trop le choix, mais en tout cas ils l'ont fait. Voilà. Donc dans un article pour France Info, Sophie Boisseau du Rocher, qui est chercheuse associée au Centre Asie à l'Institut français des relations internationales, c'est l'IFRI, affirme que cela se joue un peu partout et dans le Nord également. Donc en fait, elle dit les résistants ont avantage à disséminer leurs forces, donc en fait un peu partout sur le territoire. L'armée est confrontée en fait à une résistance multiforme du coup et totalement inattendue. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que par rapport à ce que l'armée connaissait avant, et donc ce général qui est plutôt âgé, connaissait, et ben en fait, il n'y arrive pas parce que c'est pas aussi simple qu'avant. Voilà. Donc on peut donc constater une résistance à la fois, comme elle le dit, d'une armée et des civils. Donc avec le refus, par exemple, de payer ses impôts, ou le boycott des produits générés par les entreprises sous contrôle de la Tatmadaw, qui est le nom de l'armée. Voilà. Alors il faut savoir que les Birmans se privent parce que c'est des produits parfois de première nécessité. Moi, je dis non, écoute, tant pis, je n'achète pas. Donc il y a des stocks de produits qui restent comme ça parce qu'ils refusent de financer l'armée. Voilà. C'est ce qui d'ailleurs redonne espoir à la population, le fait que l'armée semble ne pas pouvoir être finalement sur tous les fronts. Et ça, c'est plutôt positif. Et en fait, elle n'arrive pas à agir partout, cette armée. Donc du coup, quand on a un état militaire, si l'armée commence à s'effriter ou à pas y arriver, c'est plutôt bon signe. Donc les pressions diverses mises sur l'armée pourraient accélérer la chute du régime dictatorial, d'ailleurs. Même si, face à cela, l'armée semble, elle, au contraire, intensifier les représailles, les violences, mais aussi les arrestations arbitraires. Et ça, par contre, c'est ce dernier point qui commence à inquiéter beaucoup, beaucoup de gens. C'est qu'en ce moment, l'armée en Birmanie arrête à tour de bras. C'est-à-dire qu'elle prend les gens. On parle parfois de demi-village. C'est-à-dire qu'on vient, on prend la moitié des hommes. Et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est une façon, en fait, de créer la stupeur, la peur. Voilà. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui pêche le plus, et c'est ce que disent d'ailleurs, y compris les Birmans sur place, c'est le soutien international, qui n'existe quasiment pas. Alors, on va parler un peu du silence de l'ONU, parce qu'il y a un vrai silence de l'ONU sur la Birmanie, sur le Myanmar. Donc depuis un an, le régime militaire, il bénéficie du soutien sans faille de la Chine et de la Russie. Bon, là, vous ne serez pas trop surpris. Donc a priori, s'il bénéficie du soutien sans faille de la Chine et de la Russie, il doit aussi bénéficier en France du soutien sans faille de Mélenchon, de Pécresse et de tous ceux qui soutiennent la Russie et l'axe franco-chinois. des fois je tiens à rappeler quand même ce que ça veut dire quand on s'aligne sur certains pays, ça veut dire qu'en fait on soutient des pays qui soutiennent aussi. Donc ça veut dire qu'on s'aligne sur une position qui est celle de soutenir aujourd'hui la dictature militaire en Birmanie. Voilà. Ces deux pays bloquent toute résolution à l'ONU, vu qu'ils ont un droit de veto, sur la situation Myanmar. Donc pire, aucun embargo sur les armes n'a été décrété. Alors je vous rappelle que d'habitude quand il y a un conflit, l'ONU arrive au moins à obtenir un embargo sur les armes. C'est assez rare, mais elle y arrive. Bon, alors je vous rassure, hein, la France a fait par exemple blocage pour qu'on n'ait pas d'embargo sur les armes sur le Yémen. Hein.
Mais marrant, ça,
ouais, là aussi.
Finalement, c'est toujours très lié aux intérêts en fait.
Ah hein, bah oui, parce qu'on vend quand même.
Tiers.
On vend des rafales, vous déconnez. Donc, mais quand même, c'est Tom Andrews hein, qui est rapporteur spécial aux Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Birmanie, qui dit le fait qu'une année se soit écoulée sans qu'aucune résolution du Conseil de sécurité n'impose un tel embargo est juste inacceptable. En fait, il dit, mais à un moment donné, on a une dictature militaire, normalement, dans les textes de l'ONU, c'est interdit, et théoriquement, en fait, eh ben, on devrait se mettre d'accord pour dire une dictature militaire n'a pas existé. Alors, je vous rappelle que la Chine n'est pas reconnue comme une dictature militaire parce qu'il y a des élections. Ne riez pas trop fort.
Ah, pardon.
Voilà, donc voilà. Oui. Mais quand même, voilà. Mais c'est pour ça que
c'est ridicule, là, quand même. Voilà.
Oui, oui, mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une vingtaine d'années, la Chine a mis en place cette fameuse pseudo-élection du parti.
Ouais, pour faire croire
qu'il y avait des élections. Mais enfin, voilà. Pour dire non, c'est pas militaire. Voilà. Bon, au-delà de ça, au bout d'un an, rares sont les multinationales, et en particulier françaises, parce qu'on va rappeler quand même qu'en Birmanie, il y a énormément de multinationales françaises.
Il ouais, y a du pétrole, implantées. Je crois, là-bas, non ?
Total Energy, par exemple. Je donne son nouveau nom.
Oui.
Donc, voilà. Donc, ils ont. Aucune n'ont en fait réduit vraiment leurs activités sur place. Alors il y a eu des déclarations comme ça pour dire oui, on va arrêter, hein, parce que c'est pas bien ce qu'on fait, mais bon, c'est de la déclaration. Hein.
Oui. Voilà.
Donc Total Energy, mais c'est pas la seule, hein, vu que les multinationales de l'armement sont fortement sollicitées hein, pour le pouvoir en place pour équiper les militaires. Voilà.
Ah oui.
Hein, donc, je sais pas, Dassault, tout ça, enfin, et entre autres.
Mais oui, mais alors. C'est une vraie question, hein. Mais est-ce que finalement les boîtes françaises, c'est pas plus dans l'énergie, machin, tout ça ? Et au niveau des armes, est-ce que c'est pas plus les armes russes et chinoises ?
Alors jusque-là, oui, mais comme l'armée s'en sort pas, elle veut des armes de haute technologie.
Ok.
Et là, elle va plutôt les chercher chez les Français, les Israéliens, les Allemands,
okay.
les Américains,
okay.
enfin tous les pays qui ont okay. ce qu'on appelle de la haute technologie.
Okay.
Voilà. Donc non, mais il y a vraiment une sollicitation et bizarrement on n'en entend pas trop parler de tout ça.
Ben
voilà.
Non.
Alors il y a pas de fatalité hein, parce que moi clairement je dis pas tout ça pour dire que tout est foutu, bien au contraire. Hein. Depuis un an en fait il y a bien des réseaux d'information qui tentent de nous alerter sur la situation, mais cela fait pas beaucoup réagir hein, malheureusement dans les pays riches qui sont pourtant directement concernés car ils abritent les multinationales qui coopèrent avec la junte hein, et puis ils abritent les États qui fournissent les armes et ils abritent aussi souvent ce sont les mêmes États qui refusent de créer un embargo sur les armes. Donc on a quand même d'autres mots à dire, on va dire, moi j'entends beaucoup en ce moment, liberté et peuple, c'est des mots qui reviennent beaucoup, bah, j'aimerais par exemple qu'on puisse se dire, bah, moi j'aimerais que la France elle arrête de vendre des armes et qu'elle porte un texte qui dise on vend pas des armes à une dictature militaire, voilà. C'est juste ça, je sors même pas du système étatique actuel, là je dis juste ce qu'on pourrait par exemple porter, voilà. Faute d'une forte diaspora hein, d'ailleurs, ou d'un manque d'organisation, rares sont les rassemblements de soutien aussi parce que les Birmans ils ont du mal à s'organiser aussi, même dans des pays où ils sont assez présents parce qu'il y a une peur, parce que je vous rappelle qu'ils ont très très peur de ces fameux infiltrés ces gens qui sont là pour donner des infos à la junte militaire et donc c'est assez compliqué pour eux voilà. Donc par contre c'est des choses qu'on peut faire. C'est-à-dire que nous, on peut monter des rassemblements pour dire on veut la liberté pour le peuple birman. Voilà, tout simplement, on peut le faire, on a le droit. Enfin, on a encore le droit, mais là, pour l'instant, on a le droit. Voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'une fois que certains soutiens de ces pays seront passés au pouvoir, on n'aura plus le droit. Mais enfin, pour l'instant, on peut. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous intéresser à ce qui s'y passe, de relier les infos et d'aider comme on peut le faire. Parce qu'il y a des fois, par exemple, tout bêtement, il y a des appels aux dons pour de l'humanitaire. Alors oui, je sais, l'humanitaire, c'est un cautère sur jambe de bois. Je suis conscient de ça. Par contre, quand les gens ont la dalle, ils sont contents de manger. Hein. Donc on peut se dire, ça sert à rien, ou alors on peut se dire, ils ont la dalle. Vous voyez, vous mettez ça du côté que vous voulez, je suis pas en train de faire de la morale. C'est vous, avec vous-même, vous faites... Mais moi, personnellement, je me dis, des fois, ça peut aider. Mmh. Voilà. Et dans cette période d'élection présidentielle, hein, c'est pour ça que j'ai fait quelques références, il serait sans doute pas si idiot de demander aux différents candidats ce qu'ils comptent faire. Parce que là, vous savez, ça va être la période des meetings. Hein. on va passer, puis dans les meetings on va vous donner la parole, parce qu'on va dire oui la parole est à la salle. Alors bon, souvent on prépare un peu le coup pour que ce soit que des gens qui sont d'accord avec le candidat, qui, mais parfois on peut aussi se lever. Alors on n'est pas obligé d'avoir le torse nu et d'avoir un message écrit sur ce torse, mais on peut se lever et crier, et puis on peut dire hey, t'en penses quoi de la Birmanie et du Myanmar, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras président? Et là on peut commencer à discuter. Ça s'appelle du happening. Ouais, c'est mal, mais parfois ça peut faire du bien. Et voilà. Et puis ben, ce serait bien aussi de vous renseigner sur vos différents candidats. Je dis vous parce que j'irai pas voter, je le dis très clairement, donc c'est pas les miens. Je vous les laisse, mais renseignez-vous sur qui ils soutiennent dans tout ça, de quel côté ils se trouvent et de ce qu'ils pensent et de leurs déclarations sur ce qui se passe là-bas aussi ces derniers temps. Ouais, il y a du lourd. Et il y a du lourd à gauche comme à droite. Donc c'est bien comme ça, tout le monde est concerné. Donc en fait, on pourrait vraiment avoir des surprises si on venait à leur poser des questions à tous ces gens. Et moi, je le dis, si je reparlais aujourd'hui de la Birmanie, c'est parce que ça fait un an, et c'était parce que c'est comme ça, parce que ça revient dans l'actualité. Mais c'est important en fait de se tenir au courant. Donc on avait donné tout un tas de sites dans l'émission 389. Hein, donc voilà, je vous renvoie là-bas. On remettra le lien à l'émission. Je vous invite vraiment. Ça prend 5 minutes. Hein, vous allez voir un peu ce qui se passe. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs sur les flux RSS de ces différents sites pour être informé. Ils ont aussi des Twitter, ils ont aussi des Facebook, ils ont des TikTok. Enfin, ils essayent d'être présents vraiment le plus largement possible. Et ça permet en fait d'avoir de l'information, de comprendre ce qui se passe. Et aussi parfois d'avoir des images qu'on ne voit pas dans les médias, ou alors qu'on va voir 3-4 jours après dans les médias. Mais vous pouvez du coup interpeller parfois et dire hey, regardez ce qui se passe là-bas, parce que c'est important en fait, de dans un monde qui est connecté, de le rester. Et en fait c'est important de ne pas juste regarder ce qui nous intéresse à l'autre bout du monde, de savoir si Rihanna est enceinte ou pas. Voilà, mais j'ai ça sans méchanceté, parce que ça peut être très sympa de se dire tiens, est-ce que Rihanna est enceinte ou pas, mais à côté de ça il y a des choses qui se passent, et c'est aussi ça d'être connecté au monde. Ça permet de rester en connexion avec des gens qui aujourd'hui demandent juste qu'on relaie l'information et qu'ils ne soient pas oubliés. Parce que la grande crainte, et moi j'ai lu deux textes hein, sur Info Birmanie, je vous invite vraiment à aller voir, la grande crainte des Birmans sur place, c'est qu'on les oublie. Mmh. Et ils disent, mais vous allez faire de nous le nouveau Hong Kong. Et c'est vraiment leur peur, c'est de dire on va devenir le nouveau Hong Kong, c'est-à-dire que on va plus parler d'eux, ils vont finir écrasés par une botte totalement, enfin ils pourraient finir écrasés totalement par une botte militaire, et ils disent mais si on parle pas de nous en fait on disparaît. Et c'est ça en fait le truc, c'est de parler.
Bah, j'ai presque envie de dire, moi je souhaite à la junte birmane de pouvoir organiser les Jeux Olympiques chez eux, parce que moi là c'est sûr on parlera pas des problèmes politiques, on parlera pas des Ouïghours, là on parlera pas des prisonniers politiques au Myanmar. Donc non vraiment organiser soit une coupe du monde, soit faut qu'on leur envoie un tweet à la junte birmane, parce que là au moins dès que vous rentrez dans le politique spectacle des Jeux Olympiques ça ou de roule. La Coupe du Monde, no problème.
Mais, voilà. Mais en tout cas c'est vraiment important, et je leur dis tenez-vous informez-vous, et c'est vraiment un combat dont il faut parler dans vos différents lieux où vous vous trouvez. Voilà, c'est ça paraît bête, mais des fois même dans un repas de famille, dire tu sais qu'en Birmanie en ce moment il y a une junte militaire qui est au pouvoir, bah vous verrez que les gens sont souvent pas au courant, mais ça permet aux gens de savoir, et quand on sait, plus on est de gens à savoir, moins on est de gens à accepter souvent. Voilà, c'est un peu ma théorie du soir.
Oui, non, mais je veux dire, c'est comme quand on a reçu les soutiens, ceux et celles qui font des choses autour de la révolution soudanaise. Oui, en fait, on changera pas la face du monde ici en relayant leurs infos. Par contre, on élargit leur champ de portée, en fait. La portée de leur voix et de leur son et de leur parole sera encore plus grande. Donc, c'est juste ça. Oui, on se rêve pas ici à la causerie ou ailleurs d'être, je sais pas quoi, en fait. Enfin, on fera pas la révolution en Birmanie d'ici ou soudanaise d'ici.
Mais il faut être des relais.
La solidarité internationale, elle a un sens, et c'est celle-là au moins. C'est voilà, jouer solidaire et porte-voix plus que porte-parole en fait.
Tout à fait. Reprend. Ben, j'espère en tout cas que je vous aurai donné l'envie de vous informer sur ce qui se passe là-bas. On met un peu de musique.
Allons-y.
Je crois que je préviens, ça tabasse les oreilles.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Mais c'est un groupe de punk birman et ils envoient du lourd. Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur RadioCanu.org. Et je pense que là, vous êtes bien remonté. Voilà. Et c'était The Rebel Riot avec Let's Fight. Et c'est un groupe donc birman de punk, hein, comme vous l'avez pu l'entendre, anarcho-punk, comme ils disent, et anarcha-féministe, parce qu'ils tiennent à ce qu'on le rappelle. Et donc voilà. Donc du coup, bah oui, ils continuent parce qu'ils sont sur place la plupart. Et ils continuent à faire des titres et ils continuent à faire des titres contre la junte militaire en Birmanie. Et voilà. Et ils sont vachement courageux.
Et d'ailleurs, il y a une compile que de groupes punk qui est sortie en soutien justement à la révolution birmane.
Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est à toi, Jean-Yves, du coup, toi, tu veux nous parler un petit peu, est-ce que le bien c'est mieux que le mal et le mal est mieux que le bien?
C'est pas mal, ça. Effectivement, ce soir, j'ai eu envie de causer du binarisme ambiant, du noir ou blanc, du pro ou anti, du bien, du mal, etc., etc. Enfin, bref, tout ce qui est un peu lié à l'absence, en fait, de complexité, à l'absence de nuance, en fait. Envie de parler, justement, de cette impression, en fait, d'avoir le droit à un discours. Et pour contrer ce discours, et ben juste son extrême inverse en fait, et que c'est vraiment une impression d'être dans un truc où c'est toujours en effet miroir en fait. Donc voilà, donc je préviens, hein. Attention, je préviens, je ne m'exclus pas de la pratique du binarisme. Hein. Après tout, moi aussi, je ne suis qu'un humain comme mes compagnons et compagnonnes.
Non, je suis pas humain, moi, il paraît.
Non, c'est ça.
Je vous révélerai un jour ce que je suis.
du studio ou comme vous qui êtes l'autre côté du poste. Du poste. Comme c'est Asbin. Hey. Il y a des gens qui nous écoutent sur des téléphones. Enfin bref.
Bienvenue dans la campagne de 1922.
C'est tellement ça. Alors, toi qui nous écoutes. Alors bref, pardon. Donc, vu que je n'exclus pas, hein, je reste quand même persuadé que l'interroger fait qu'au moins, on peut se rendre compte que parfois on l'est. Parfois, souvent, ou peut-être même jamais, hein, tant mieux pour vous, peut-être toujours aussi. Et donc, quoi de mieux que de s'en rendre compte pour essayer d'en sortir, ou quoi de mieux pour s'en sortir que de se rendre compte qu'on peut le pratiquer, ce binarisme aussi. Donc je vais tenter, hein, de le faire avec des exemples récents, actuels. Alors prenons un exemple, hein, autour de la pandémie évidemment. Je vais pas faire comme si elle n'existait pas, je vais pas faire comme tous les candidats à la présidentielle qui font comme si on n'avait pas vécu 2 ans de merde. Donc prenons un exemple, hein, je disais, autour de la pandémie qu'on a traversée, qu'on traverse encore évidemment. Donc sous prétexte en fait que le gouvernement a fait encore de la merde, il faudrait s'opposer à tout, gestes barrières, masques, vaccination, etc. Sous prétexte que les entreprises du milieu pharmaceutique sont pourries, alors il faut rejeter les vaccins. Faire croire qu'il s'agit au choix d'une thérapie génique ou encore le célèbre « on n'a pas assez de recul ». Donc, faire en sorte que la science et les big pharma, c'est la même chose, alors que la science est une chose, le capitalisme entrepreneurial est une autre. Donc voilà. Et si tu remets en question la gestion étatique, t'es un anti. Si tu remets en question la non-pratique des 10 gestes barrières, par exemple, ou de la non-vaccination, te voilà suppôt du pouvoir politique. Te voilà soutien de big pharma.
Voire de Macron.
Ah bah oui, du pouvoir public. Ah oui. Ah bah oui, j'ai eu droit, moi je suis macroniste. Oh, je pense que oui, tous ceux qui ont fréquenté un peu les milieux politiques ont eu la chance d'avoir soit t'es un suppôt de tout ça, ou t'es un macroniste. Donc voilà, hein, quant à faire fonctionner les cerveaux, faudra repasser, parce que là, c'est pas pour tout de suite. Alors que l'État, hein, et que ceux et celles qui le dirigent ont dirigé et le dirigeront, ne croyez pas que votre petit bulletin dans les urnes à venir changera la donne, hein, on fait de la merde, c'est un fait. Que l'État soit autoritaire, c'est un fait. Là aussi, indépendamment du petit bulletin que vous allez glisser, mais ça c'est un autre truc. Que l'État soit garant du capitalisme, de la propriété privée, là encore, c'est un fait. Hein,
c'est même un peu pour ça que l'État existe.
On
souffle dans l'oreillette. Ça.
C'est ça. Mais là encore, hein, quel que soit le bulletin que... Enfin bon, vous voyez, vous pouvez le répéter à plusieurs reprises quand je vous parlerai des critiques sur l'État. Mais ne voir cela en fait qu'en période de pandémie, c'est à se demander en fait où se promenaient vos regards et votre esprit critique en fait avant la pandémie. Et justement aussi dans quelques mois quand vous allez glisser un bulletin dans l'urne en fait. Hein. Là, d'un coup, l'État il sera gentil.
Dans 2 mois.
Quand ça sera votre candidat évidemment qui a le pouvoir. En dehors de ça, c'est tous des méchants. Voilà, bref. Donc, pour des exemples de la merde, hein, faite par l'État, on peut citer... Alors, On pourrait faire une liste longue.
À la Prévert.
Oui, ça. Sauf que bon, j'en ai pris quelques-uns et qui seront sûrement pas significatifs pour certains. Et, enfin bref, vous ferez avec. Hein. Donc on peut citer la non-gratuité des masques, par exemple, ou la non-mise en place d'outils de renouvellement d'air dans les salles de classe, par exemple. Hein. Ça fait 2 ans que les profs sont en galère, mais toujours aucun ou pas assez d'outils pour les protéger, eux et les gamins. La situation de l'hôpital, par exemple, hein, et tant d'autres choses, comme les contrôles de flics, etc., etc.
La répression.
Oui, oui, la répression, etc. Pour autant, on a quand même, y compris dans certains milieux militants, des gens qui en sont encore à douter du virus, à douter des morts du Covid, ou à les relativiser avec une petite touche d'eugénisme mal assumée. Assumez-vous. Oui, bon, c'est sûr qu'après, quand on devient eugéniste, c'est compliqué de se dire révolutionnaire, anard ou je ne sais quoi. Hein. Non, quand on est eugéniste, on est assez une crapule d'extrême droite, en fait. Hein, arrêtons de jouer avec les mots.
Ouais, mais c'est une position qui est embêtante. Pour les personnes qui la tiennent, c'est qu'en fait, elle rejoint la position de l'État aujourd'hui. Ah bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au nom de l'économie, on a effacé gentiment le nombre de morts par jour. Oui. On a arrêté...
On est quelques centaines. Hein.
Ouais, on était encore à 200 et quelques hier. En gros, la cinquième vague de Covid va faire à peu près 20 000 morts de plus, pour qu'on se rende compte, entre 20 et 25 000 personnes. Ce qui est énorme. Hein. Je veux dire, si je vous disais comme ça, tiens, en fait, il y a 25 000 personnes qui sont mortes d'un truc évitable. Et en fait, finalement, bah, c'est une part d'eugénisme capitaliste, hein, qui part du principe que bah, les morts d'aujourd'hui sont des morts acceptables. Après tout, bah, si t'es pas vacciné, c'est de ta faute. Et puis si t'es trop faible, bah, c'est de ta faute aussi, puis c'est que tu sers plus à rien. Donc il faut que l'économie tourne. Mais finalement, ça rejoint un petit peu l'idée des gens qui, depuis 2 ans, vont dire « Ah, on essaie de nous enfermer, mais c'est pas vrai, il n'y a pas besoin. Regarde, c'est qu'une grippette, et de toute manière, il faut bien que les gens meurent de quelque chose. Bah, » Finalement, vous avez trouvé un point de convergence.
C'est ça.
C'est cool, quelque part. Mais c'est là que ça devrait interroger. C'est-à-dire que, justement, tu parlais du binarisme, c'est là que ça interroge. C'est-à-dire que ce point de convergence, il est sur une chose très précise, c'est le massacre des plus faibles.
C'est ça. Voilà. Donc ces dernières choses, hein, le doute sur le virus, les morts ou la relativisation des morts, ben, en fait, ça me semble toujours très compliqué en fait, de discuter, d'argumenter. En fait. Moi j'ai l'impression que face à des gens qui sont à la négation de ça, c'est comme en fait, de discuter de l'existence ou non d'un dieu. Il y a ceux et celles qui s'appuieront sur le ressenti, souvent incontestable, évidemment. Sinon on te dira que tu nies l'individu. Comme si l'individu, d'ailleurs, ne pouvait jamais se tromper. Et pourtant, on est grand défenseur ici de l'individu, mais l'individu n'est pas infaillible, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il est humain. Voilà.
La preuve, on en connaît qui vote Zemmour.
c'est exactement ça.
Non, mais c'est pour donner un exemple. Quoi. Là, c'est aussi des individus. Hein.
Mais oui, oui, évidemment. Donc l'individu pourrait aussi se tromper, en fait. Hein. Enfin bref. Et il y en a d'autres, en fait, qui, eux et elles, s'appuieront sur la science, sur des faits, sur des choses quantifiables, sur des chiffres, sur des données. Donc, c'est toujours très compliqué à arriver à dialoguer sur ces dernières, enfin, sur ces premières questions-là.
Mais qui peuvent aussi tomber, ceux-là, dans une autre forme de binarisme.
Évidemment.
C'est-à-dire celui de ce qu'on appelle le syndrome d'Einstein, c'est-à-dire l'impression d'avoir raison sur tout. Oui. Et, sauf qu'en fait, non. Il y a le professeur Montagnier, là, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il avait ce qu'on appelait une Nobelite. Ça s'appelle comme ça. C'est les gens qui ont un prix Nobel, puis d'un coup, ils se mettent à sortir de leur précaré et à donner leur avis sur tout. Alors lui, il s'est mis à penser que l'eau avait une mémoire, que les gènes se téléportaient. Bref, pardon, j'en ris, mais ça, c'est terrible. Et à la fin, même sur le Covid, il a raconté énormément de conneries. Et en fait, bah, il était sorti complètement de son domaine de. Voilà. Donc c'est pas non plus. Là aussi, c'est cette espèce de binarisme, de penser être du bon côté, qui fait que, ben, à un moment donné, quand on se remet plus en question, on finit par dire des conneries aussi.
Ouais. C'est ça. Alors après, hein, on a celles et ceux qui te parlent de l'inutilité des masques, voire de leur danger. Bah ouais. Comprenez, c'est qu'on est tout frais avec les masques. Hein. Une pensée d'ailleurs pour les chirurgiens, chirurgiennes et autres qui, avant tout cela, étaient déjà habitués en fait, à porter des masques longtemps, sans une hausse de la mortalité dans le milieu des chirurgiens et chirurgiennes. Oui. C'était en passant comme ça. Hein.
Ou dans mon milieu de travail, j'en ai pas vu de mort.
Voilà, non, mais tu
pourtant,
vois,
j'en porte régulièrement. Quand même.
C'est vraiment un truc de ouf. Quoi. Alors, entre l'État qui disait qu'il ne servait à rien au début, on parle toujours du masque, puis qu'il fallait le porter tout le temps, partout, sans nuance. Bah, de l'autre côté, en fait, on avait certains milieux qui faisaient et qui font presque une fierté de ne pas porter le masque nulle part, jamais. Hein. Et quand c'est le cas, enfin, quand on est au milieu de tout ça, bah, en fait, il faut cravacher assez dur pour arriver à trouver un équilibre, une nuance, etc., etc. Tellement on est basculé par le tout, le rien. Ben, entre tout ça, il faut s'y retrouver. Quoi.
C'est une forme de réaction.
Oui, mais c'est l'effet
deux...
miroir. Hein.
Ouais,
c'est,
dans les deux
c'est...
cas.
Et l'effet miroir, c'est la même pièce. Hein. Mmh. C'est juste le dos de
oui,
la pièce.
Ça,
hein.
C'est le côté chamouillé, c'est l'épidermique. C'est-à-dire qu'on surréagit et on n'est pas dans la réflexion.
Non, on est dans la réaction.
Dans la réaction, et voilà. Fin...
Alors, parce que oui, évidemment, un masque partout, tout le temps, même dans une rue vide, c'est juste stupide.
Ouais,
ça ne sert à rien. Ou le masque tout seul dans la voiture, ça ne sert à rien.
Hein. Non, c'est clair.
Qu'on se le dise, en fait,
ça
évidemment.
Ça peut servir en cas de contrôle radar, mais ça, c'est notre débat.
Alors, le porter jamais, nulle part, même dans une manif, même dans des réunions, des soirées, bah, c'est juste aussi stupide. Donc, aucune de ces deux positions, en fait, ne font appel au savoir, à la nuance, etc. Pro ou anti, choisis ton camp, camarade, et surtout, ne réfléchis pas. Et puis, si en plus, ça peut éviter de s'interroger et de militer pour l'accès gratuit au masque, ça fera toujours une lutte de moins à mener.
Et t'as pas encore parlé des vaccins.
Non, je m'arrête là, hein, sur l'exemple.
Alors l'exemple du masque, moi je trouve que c'est un truc qui est hyper parlant, et ça rejoint autre chose, ça rejoint aussi tout ce qui est, on va dire, de l'utilité générale. C'est-à-dire, ça rejoint, tu avais fait un sujet, je crois que c'est toi ou je ne sais plus qui avait fait dans la causerie, un sujet sur les protections périodiques pour les femmes ou pour les personnes qui ont leurs règles. Et donc en fait, il y avait eu l'idée de dire, ça devrait être gratuit parce que c'est un incontournable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut arrêter de tourner autour du pot, c'est pas un bien de consommation.
Non, c'est
juste à un moment donné...
C'est élémentaire. Quoi.
Voilà. Et ben le masque, pour moi, ça devrait relever de la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est incontournable dans une période de pandémie. Donc bah, ça devrait juste être gratuit, c'est-à-dire que vous devriez pouvoir aller à la pharmacie, avoir votre boîte de 50 masques et revenir la renouveler. Alors peut-être qu'il faudrait mettre des limites, j'en sais rien, mais encore, je vois pas qui viendrait se taper des boîtes de 50 masques à tour de bras. Mais vous pourriez aller, voilà. Sauf que là, en fait, encore une fois, on en a fait un bien de consommation qui a rapporté. Moi, j'ai entendu Monsieur Leclerc se féliciter que la pandémie lui avait rapporté sur les gestes barrières. Alors, quand il dit ça, c'est pas parce que vous avez mis un mètre entre vous et la personne qui était en cabine.
Non.
C'est le gel hydroalcoolique, c'est les masques, c'est tout ça. Et en fait, bah, c'est pas logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà. Mais ça, cette réflexion-là, comme on est passé, comme tu le disais, dans un truc purement binaire, on n'a pas eu cette réflexion à mettre sur la table de dire, bah, en fait, c'est un bien de consommation qui ne devrait pas être un bien de consommation, il devrait être un bien commun.
C'est ça.
Donc on doit pouvoir avoir les masques gratuits.
C'est ça. Je propose de continuer avec un autre exemple hors Covid. Hein. Reposons les esprits. Enfin. Alors, vous savez que la France, par exemple, et son armée sont promptement appelés à suivre l'ambassadeur français au Mali et donc de se barrer du Mali. Je pense que vous l'avez entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à vous informer sur ce qui se passe au Mali, etc. Donc, l'armée française, il était pour l'opération Barkhane et aussi avec d'autres armées européennes dans le groupement nommé Takuba. Alors, je ne vais pas détailler tout ce qui entoure cette mission militaire, ni les viols commis par les militaires, ni les civils morts sous les armes de Barkhane, évidemment. Hein. En tout cas, ce n'est pas le sujet là.
Mais c'était pour lutter contre le terrorisme.
Oui, c'est ça. Et vous allez vous dire, mais il voit où du binarisme là, en fait? Alors, je m'explique. Alors, évidemment, on peut se féliciter, et on se félicite, que l'armée française soit dégagée. Youpi, super, un terrain en moins où des militaires français dans un pays tiers feront siffler les balles. Très bien. Notre antimilitarisme est ravi. Sauf que s'arrêter juste à ce point-là serait du binaire. Méchante armée contre gentil pouvoir politique local.
Qui est un peu militaire.
Sauf que ce serait faire fi, là encore, de tout le reste. À savoir que une junte militaire au pouvoir au Mali après deux coups d'État en 2021, et aussi les autres pays qui cherchent à tirer profit dans ce pays, et plus largement sur le continent africain, à savoir... par exemple, la Russie et sa fameuse milice privée Wagner, ou encore la Chine et ses fameuses routes de la soie qui rachètent plein de trucs à l'appel. Sans oublier encore d'autres acteurs qui sont les factions djihadistes qui sont sur un terrain qu'ils aiment bien. Alors, parce que se féliciter que la France se casse sans voir en niant la nocivité... tant du pouvoir en place que des aspirations russes ou chinoises ou encore djihadistes, c'est justement là en fait que je trouve que se situe en fait le binarisme. Une forme d'antimilitarisme ou d'anticolonialisme à géométrie variable, donc un antimilitarisme et un anticolonialisme non valable en fait. Parce que dans tous les cas, les civils en paieront le prix et les richesses seront toujours au service d'une caste.
Bah oui.
Eh oui. Ce n'est pas en changeant de maître qu'on se libère, hein. C'est en virant tous ceux et toutes celles qui aspirent à être maître qu'on embrassera la liberté. Bref, j'ai pris uniquement deux exemples, mais cela est valable pour tant d'autres choses, militaires, économiques, politiques, géopolitiques, philosophiques, artistiques, etc., etc. Alors évidemment, je n'ai pas posé une thèse là, pas cité de multiples penseurs ou de groupes qui auront sûrement déjà pensé bien avant moi, et le sujet mériterait certainement des heures et des heures d'affinement, etc., etc. Reste que je pense que le binarisme et le simplisme qu'il induit, forcément, si c'est noir ou blanc, il n'y a pas à tergiverser 15 ans. Hein. C'est la mort de l'esprit, de la réflexion. C'est dessiner le monde en noir et blanc, en fait, en niant toutes les nuances de gris, en fait, qui composent la vie. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, évidemment. Qui plus est dans notre société, c'est-à-dire l'instantanéité, etc., etc. Il faut que tu penses à tout, il faut que tu penses sur tout. Mais en tout cas, c'est voilà. Mais je pense quand même que la réflexion humaine peut faire mieux et plus complexe que bien ou mal, que noir ou blanc. Et en fait, ça, j'en reste intimement convaincu quand même que ça, c'est à la portée de nous tous et de nous toutes, individuellement, mais collectivement aussi, quoi. C'est-à-dire confronter nos points de vue, etc. Et ça peut se faire de manière apaisée, ça peut aussi se faire un peu plus tendue, mais c'est pas forcément grave en soi, c'est juste... sortir du binarisme, en fait, ça complexifie les choses. Et je pense que la vie, en fait, est complexe. C'est essayer de se rapprocher au plus près de la complexité qu'est la vie, en fait. Et enfin, bref, voilà.
C'est vrai ce que tu dis.
Mais oui,
la
enfin.
La vie est complexe, non, mais par définition.
Mais oui, enfin, c'est con, mais j'ai tout de suite, rien à voir, mais je repense à un doc que j'avais vu sur les jeunesses hitlériennes. Alors, vous allez me dire, oh, il est fou le mec, il fait un point Godwin. C'est pas du tout l'idée. C'est juste, en fait, j'avais vu un reportage sur les jeunesses hitlériennes. Et en fait, un des interrogés était un jeune, enfin, était jeune à l'époque, et juif. Et il était dans les Hitlerjugend. Et quand tout ça a pris fin, il était presque déçu que ce soit la fin. Ça ne veut pas dire que c'était un nazi avéré.
Ça veut dire que dans la complexité de sa vie.
Et ouais, bordel, c'est vachement plus compliqué en fait la vie que gentil, méchant, etc. Non,
parce qu'il le disait bien, qu'il avait compris qu'il fallait qu'il se planque. Hein.
Oui, et je suis pas en train de dire oui que le nazisme c'était génial et qu'il faut en discuter. Hein. C'est pas ça le principe. Mais c'est juste que oui, en fait, la vie est complexe en fait. Et je pense que plus on sortira du binarisme et plus on peut essayer de coller à quelque chose qui est quand même ressemblant à la vie, quoi. Enfin bref, voilà, je ne sais pas si je suis compréhensible, je ne saurais pas si ce sujet aura été utile, mais n'hésitez pas à dire si ce n'était pas utile.
Et vous pouvez appeler le 04... Non.
N'appelez pas. Envoyez un mail si vous voulez à lacausericanu@gmail.com, mais sinon, voilà.
En tout cas, moi, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, la notion en fait de complexité, c'est pour moi, c'est la différence que je fais entre la philosophie, c'est-à-dire le fait de réfléchir à la vie au sens large, pas la vie d'où on vient, et le politique qui est en ce moment. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le politique au sens politicard.
Oui, voilà.
C'est genre, on arrive, on a une solution pour tout, voilà, tu fais ça, tac, tac, tac. La philosophie, c'est plus contraignant, par contre, ça fait plus avancer les sociétés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça demande, bah oui, on se penche sur les problèmes, on s'interroge, on se pose des questions, on se demande qui fait quoi. On peut aussi se dire, bah tiens, lui sur tel sujet, c'est vraiment quelqu'un de pourri. Mais sur un autre, finalement, je suis un peu d'accord avec lui, sans être forcément d'accord avec tout. Vous voyez ? Et c'est ça, en fait, la complexification. Et moi, je le dis hein, depuis des années, je l'ai déjà dit dans la causerie, on manque cruellement de philosophie en ce moment.
Oui.
Mais cruellement.
Et pourtant, je pense que les universités littéraires, elles ont chié les étudiants en masse, non,
elles ont fait beaucoup de sociologues. Très peu
de philosophes. Oui.
Eh ben oui, mais c'est pas la même chose. Voilà. Donc moi, je pense qu'on manque vraiment de philo. Et voilà. Et pourtant, je suis un scientifique au départ, mais je trouve que la philosophie...
Mais c'est penser le monde, penser soi au monde, etc. Enfin bref. On passe à la musique, hein, parce que je vois que Clara en a absolument ras-le-bol. Non, je déconne. Allez.
Musical. J'étais et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis. J'étais et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis. J'étais et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis. J'étais et resterai moi.
droite ou t'es de gauche. T'es beauf ou bobo de Paris. Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris. Cultrice ou pathéticienne. Féministe ou la ferme. Soit t'es macho, soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel. Mécréant ou terroriste. T'es veuche ou bien t'es barbu. Conspirationniste, illuminati. Mythomaniste ou vendu. Rien du tout ou tout tout de suite. Du tout au tout indécis. Hein, tu changes d'avis imbécile. Mais t'es où tout tout de suite. Flamand ou wallon. Bras ballant ou bras long. Finalement t'es raciste. Mais t'es blanc ou bien t'es marron. L'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes. Monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir, et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, bah, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être franchouille. Faut être bien vu partout, hein. Tu es, tu l'étais, tu le restes. Il a dit l'autre, je suis, j'étais, et resterai moi. Il a dit l'autre, je suis, j'étais, et resterai moi. Il a dit l'autre, je suis, j'étais, et resterai moi. Il a dit l'autre, je suis, j'étais, et resterai moi. Tu es, tu l'étais, tu le restes. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes.
À l'écoute de Radio Canu et toujours la causerie comme tous les dimanches ou presque de 22h à 23h et quelques petites poussières. Et là on vient de s'écouter un titre qui je trouvais collait très bien à cette notion de binarisme. T'es flamand ou allons, hein, t'es hutu ou tutsi, ben finalement t'es raciste. Enfin bref, c'était donc Stromae avec le titre Bâtard.
Stromae.
Oui. Et ben, on va donner quelques brèves pour la semaine à venir. Alors, c'est Fab qui commence.
Ouais, pas. C'est le lancement de la publication Nous faire justice avec les collectifs Matsuda et Fracasse. Donc en fait c'est l'occasion du lancement Nous faire justice, hein, qui est donc fait par ces deux collectifs. Et je vais vous rappeler que Matsuda, c'est ceux qui avaient publié Abolir la police. Ouais. Voilà. Et donc c'est les 16 et 23 février à partir de 18h à l'Amicale du Futur. L'Amicale du Futur, c'est rue Sébastien Griffe au 31. Voilà.
Très bien. On passe à la suite. Il faut que tu arrêtes de fumer.
Mais je fume pas.
Pardon, on passe au 17 février, qui est quel jour, je ne sais même pas, c'est tout le problème quand même. Il y a une...
Jeudi 17.
Merci beaucoup. Donc c'est une grève pour une convention collective unique étendue de haut niveau pour l'ensemble des catégories professionnelles du sanitaire, médico-social et du social. Donc c'est une intersyndicale, hein. du Rhône en tout cas, qui est Sud, CGT et CNT, qui appellent donc à la grève et à se rassembler devant les sièges des associations du secteur pour ensuite converger vers le siège de l'Alged à 14h, dont le directeur et le responsable régional de Nexem, l'organisation patronale des conventions collectives 66 CHRS Croix-Rouge. Donc toute la journée, enfin, l'idée c'est de faire différentes actions toute la journée, et à 17h30 il y aura une assemblée générale à la Bourse du Travail. Les revendications, je vais vous en donner en tout cas quelques-unes. Il y a ouverture de places dans le social, sanitaire et médico-social, et ouverture de lits dans la santé. C'est l'arrêt des restructurations, des suppressions de places et des fermetures de lits. C'est aussi la création de 400 000 embauches sur des statuts pérennes et contrats CDI. Voilà, des plans de formation, enfin voilà, plein de choses. Revalorisation aussi des salaires, n'est-ce pas, et plein de choses. Donc c'est, je le disais, le 17 février à Lyon. Voilà.
Moi, tous ces gens qu'on a applaudis sur des balcons et qui maintenant se plaignent. Non, pardon, c'est ça, c'était de l'humour noir.
C'est ça.
Sinon, moi, je vous invite à aller voir la projection de Aube Dorée, l'affaire de tous et de toutes, en présence de la réalisatrice. Donc, en fait, ce sera à La Plume Noire, vendredi 18 février. À partir de 19h30, la projection démarre à 20h. Et La Plume Noire accueillera Angélique Kourounis pour la projection de son documentaire Aube Dorée, l'affaire de tous. C'est aussi l'occasion d'échanger après la projection sur la situation en Grèce, mais aussi en France, alors que la surenchère sécuritaire et raciste plane sur l'élection présidentielle. Voilà, donc c'est à La Plume Noire, et La Plume Noire, c'est rue Burdeau. J'ai perdu le numéro.
Vous ne pouvez pas rater le local,
mais c'est rue Burdeau. Pas du tout, rue Diderot. Je savais bien que j'ai dit une bêtise. C'est 8 rue Diderot, pardon.
Oui, je suis
premier. Burdeau, je ne sais pas pourquoi je voulais mettre là-bas.
Ouais, c'est pas la
mais
même.
Pas du tout, c'est 8 rue Diderot dans le premier.
Voilà. Ok. Et bien voilà. Et bien, c'est formidable. On est quasiment à l'heure. Et lui, il va bientôt mourir. Donc, faut qu'on rende l'antenne vraiment vite.
Pardon, je suis désolé.
Ce serait dommage qu'il meure au micro. Ça passe mal.
Il faut que j'annonce le dernier titre.
Alors, en plus.
Entre deux quintes de tout.
Si je peux lui annoncer le titre de fin avant que tu meurs.
Ouais, alors en fait, oui, juste. Il pète celui-là. En parlant de mort.
On va s'écouter.
Ben, on va s'écouter justement quelqu'un pour lui rendre hommage.
Oui, pardon.
Ben non, mais c'est vrai en plus. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens, ils vieillissent et ils meurent. Et c'était le cas de Bette Davis. Voilà. Et alors pourquoi je voulais lui rendre hommage? Parce que Bette Davis, on l'a un peu oublié. Mais c'est une immense voix du funk. Voilà. Et en fait, ben.
Du funk ou de la funk?
De la funk, je crois, on dit.
Voilà. Moi, je.
De la funk. Je... Parce que Clara me regarde, elle lève les yeux au ciel, c'est de la funk, donc. Et pourquoi? S'il n'y a pas de Bette Davis, il n'y a pas tous les autres. C'est pas compliqué. Non, mais c'est vrai. Elle a vraiment ouvert la voie. Elle a vraiment amené une nouvelle façon de chanter, une nouvelle façon d'être. Et elle a malheureusement été souvent oubliée. Voilà, parce que comme souvent les pionniers, on a tendance à dire oh bah tiens c'est
voilà. Qui plus est quand c'est des pionnières,
ouais, surtout quand c'est pionnières, et surtout quand c'est pionnières noires, alors là
ouais,
c'est,
ça, ça
là,
fait
c'est
quand plus... même beaucoup hein.
mais voilà, mais je veux dire, il y a une femme qui lui a rendu hommage, c'est Tina Turner, qui a dit en fait sans Bette Davis il y a pas moi. Voilà.
Elle est encore vivante?
A priori, oui, parce que, ou alors c'est de sa famille.
Non, mais okay,
je crois qu'elle est encore vivante,
okay, pardon.
Parce qu'en tout cas, j'ai lu qu'elle lui avait rendu hommage, alors c'était de sa famille.
Si, t'as raison, mais t'as raison.
Mais voilà, et en tout cas, mais voilà, c'est cette personne qui a vraiment ouvert, très largement, la voie. Et voilà. Et donc, du coup, on va se quitter avec un de ses titres les plus connus, qui s'appelle F-U-N-K, autrement dit, Funk.
Yeah,
voilà,
baby.
Et donc c'est Bette Davis.
Et nous on vous donne rendez-vous dimanche prochain, évidemment 22h-23h, avec des invités musicaux, si je ne me trompe pas.
S'ils peuvent venir, ben, normalement c'est bon.
Ok, donc vous aurez l'info au courant de la semaine sur le blog de La Causerie si vous voulez savoir, donc n'hésitez pas. Et puis ben, nous on vous donne rendez-vous dimanche prochain, 22-23, bon courage pour la semaine à venir. On vous fait des bisous, tout ça, et à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Des bisous.
Oh, funk, yeah.